La première. Flashback sur la première.
Jacques Baudouin, Claude Delacroix.
Eux ont une volonté de bonheur.
Je ne suis pas sûr. Le mot bonheur, pour moi, ne joue pas un rôle très considérable.
Mais vous apprenez à le définir, ce mot, quand même.
Je ne pense jamais. Je suppose que la plupart des gens, ça veut dire faire ce qu'ils veulent.
Oui, pourquoi alors l'emploie-t-on si souvent? Pourquoi souvent la vie tourne-t-elle autour de ce mot?
Ou bien
est-ce une facilité?
Une espèce de facilité. La fameuse douceur de vivre que Talleyrand mettait au XVIIIe siècle, que les gens qui ont vécu avant la guerre de 14 mettaient avant la guerre de 14. Il y a beaucoup de mirage en ce mot bonheur. Le bonheur est un sous-produit. Le bonheur, en tant qu'il a une valeur quelconque, consiste à faire à peu près bien ce qu'on est destiné à faire.
Au micro de Jacques Chancel, et bien sûr, c'est Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, qui est en fait née Marguerite de Crayencourt. Elle est née avenue Louise à Bruxelles, d'ailleurs, en 1903. Mais nous allons parler aujourd'hui de tous les honneurs qu'elle a connus au cours de la fin de sa vie, et tout au long de sa vie, d'ailleurs. Nous sommes le 6 mars 1980, et elle est élue à l'Académie française, à l'initiative, en tout cas, grâce à Jean d'Ormesson.
Qui était son grand électeur. Effectivement, elle est élue au troisième fauteuil, qui était le fauteuil détenu par Roger Caillois. Et bien sûr, c'est un événement dont la chronique a beaucoup parlé, parce qu'elle est la première femme élue à l'Académie française depuis que celle-ci existe, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première élection pour Marguerite Yourcenar.
Elle avait déjà été élue à l'Académie royale belge, n'est-ce pas ?
De langue et de littérature française en 1970, au titre de membre étranger. Et puis, il faut dire que les années 70 sont des années assez fertiles pour elle, pour sa création. Elle termine Souvenirs pieux, qu'elle publie bien sûr en 1974. Elle rédige et elle publie Archives du Nord. Elle reçoit aussi le Grand Prix national de la culture en 1974 et le Grand Prix de l'Académie française en 1977.
Et oui, et ça va pas se terminer comme ça, parce qu'elle va continuer à connaître les succès un petit peu partout, notamment en 82, c'est l'Académie américaine des arts et des lettres qui va l'élire comme membre, ce qui est tout de même, de la part des Américains, une reconnaissance tout à fait caractérisée.
Oui, elle a d'ailleurs été titulaire de plusieurs doctorats honoris causa aux États-Unis. Mais écoutons son grand électeur, Jean d'Ormesson, autre académicien bien sûr, qui expliquait un peu les circonstances de cette élection. Et c'était lors de la parution de son livre « Garçon, de quoi écrire », écrit en collaboration avec François Sureau, publié en 1990, il était au micro de Marc Rombaud.
Je crois d'abord pouvoir dire que j'ai fait entrer Marguerite Yourcenar à l'Académie. Je m'empresse de dire tout de suite qu'elle n'avait pas besoin de l'Académie et que je suis persuadé que c'est elle qui a fait honneur à l'Académie en y entrant. Je ne voulais pas faire acte de féminisme en faisant entrer Marguerite Yourcenar, mais si nous cherchions à avoir de grands écrivains à l'Académie, ce qui me paraissait tout de même légitime, il me semblait que Marguerite Yourcenar était un grand écrivain et qu'il était intolérable de ne pas l'admettre pour le seul motif qu'elle était une femme. Et alors là, je me suis battu et probablement je l'ai fait entrer un peu de force à l'Académie, c'est vrai. Alors après, on m'a dit, mais Marguerite Yourcenar a été un peu lointaine à l'Académie. Est-ce que vous n'avez pas été déçu parce qu'elle n'est pas venue à l'Académie? Pas du tout, ça faisait partie du contrat. Je me rappelle très bien, dans des séances un peu houleuses, on ne sait pas, on avait dit qu'on s'était battu à l'Académie, non, c'est pas vrai. Mais on m'avait traité de galopin, ça c'est vrai, on m'avait traité de galopin. On avait soupçonné que je ne voulais faire entrer Marguerite Yourcenar que pour paraître moi-même à la télévision, ce qui était très exagéré. Ce qui est vrai, c'est que quand j'avais donné comme argument pour l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie, un des arguments que j'avais dit, vous ne voulez pas de femme, eh bien prenez donc Marguerite Yourcenar, elle n'y viendra jamais. Bon, et ben voilà, le contrat a été tenu de part et d'autre, et en effet, Marguerite Yourcenar est venue très peu à l'Académie, mais je crois que pour l'Académie, ça a été un événement considérable que l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie, et j'ose dire que l'événement a été plus important pour l'Académie que pour Marguerite Yourcenar elle-même.
Alors l'œuvre de Marguerite Yourcenar pour vous à la comté dans votre vie?
Ah oui, c'est très très beau. Naturellement, il y a les grands massifs, les mémoires d'Adrien ou l'œuvre au noir. Il y a aussi de très beaux livres, je n'oserais pas dire mineurs, mais peut-être qu'ils sont de moins grands massifs que les deux livres que je viens de citer, par exemple Le coup de grâce ou par exemple Les merveilleuses nouvelles orientales. Vous vous rappelez peut-être la première des nouvelles orientales qui est l'histoire du peintre Wang Fo, qui est un très grand peintre. L'empereur est jaloux de lui parce que l'empereur peint lui-même, et alors l'empereur enferme Wang Fo dans sa cellule, et Wang Fo peint un dernier tableau admirable qui est un bateau sur la mer, et quand on vient chercher Wang Fo pour l'exécuter, à cause de la jalousie de l'empereur, eh bien Wang Fo monte sur le bateau qu'il a peint et s'en va sur la mer qu'il a peinte. C'est admirable pour montrer, n'est-ce pas, comme l'art est le salut de l'existence.
C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ajoutais le prix du papier, ta nicotine, une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire, une cartouche qui se fume, une lance fil aux plumes pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues. Marqué par la bague du doigt qui t'accuse, bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, rêveur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Timbre bitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau détache, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible pour cet impossible, missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse, vague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets,
nous éloigne l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, erreur du destin qui choisit.
Les wagonnets, les wagonnets.
Nous sommes maintenant le 22 janvier 1981, c'est la réception à l'Académie française au Quai Conti. Et là, évidemment, il est là, il c'est Armand Bachelier.
Et Marguerite Yourcenar va bien sûr prononcer l'éloge de son prédécesseur, Roger Caillois, dont elle a lu l'œuvre complète l'été précédent. Mais d'abord, il faut l'accueillir et c'est bien sûr son grand électeur, Jean d'Ormesson, qui va prononcer le discours introduisant Marguerite Yourcenar. Bachelier.
16h21, il était 16h21 lorsque Jean d'Ormesson a prononcé sous la coupole ce mot jusque-là maudit.
Madame, Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Une espèce d'apax du vocabulaire académique, une révolution pacifique et vivante, et où vous constituez peut-être, à vous toute seule, un des événements les plus considérables d'une longue et glorieuse histoire. Je ne vous cacherai pas, madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Nous vous aurions élu aussi, et peut-être, je l'avoue, plus aisément et plus vite, si vous étiez un homme, plus au ciel, que les hommes que nous avons choisis depuis 350 ans eussent tous l'immense talent de la femme que vous êtes.
Les choses sont très claires dans l'expression de Jean d'Ormesson. C'est vraiment briser un tabou, c'est-à-dire l'entrée d'une femme à l'Académie française.
Et voici le moment tant attendu. Marguerite Yourcenar va bientôt prononcer son discours.
Les gardes républicains, puis Jean Mistler, secrétaire perpétuel.
La parole est à madame Marguerite Yourcenar pour la lecture de son remerciement.
N'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle.
Elle va blanchir l'Académie de son antiféminisme.
Que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du 19e siècle que la littérature est devenue en France, tout ensemble, une vocation et une profession pour quelques femmes. Et cet état de choses était trop nouveau, peut-être, pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil. Et peut-être eussent-elles cru déchoir en le faisant de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.
Marguerite Yourcenar a ensuite rendu hommage à son prédécesseur, Roger Caillois. Ce remerciement est tout bonnement un chef-d'œuvre, écrit ce soir le journal Le Monde. Encore Jean Mistler.
Mesdames, messieurs, avant de nous séparer, je tiens au nom de nos confrères à remercier tout particulièrement Monsieur le Président de la République, protecteur de l'Académie française, et Madame Valérie Giscard d'Estaing d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette séance de notre compagnie.
Ionesco, Maurice Druon, Alain Perfit était en civil, Michel Droit aussi, mais lui, il n'est pas encore autorisé de costume. En tout cas, pour recevoir Marguerite Yourcenar, l'Académie française s'est comportée avec un sens exquis de la mondanité. 345 ans après, misogynie, YNIE, Nini, c'est fini. Somebody somewhere. Looking pretty dangerous, running out of patience. Tonight in the city, you won't find any pity. Hearts are being twisted.
Et après l'Académie française, eh bien les honneurs vont succéder aux honneurs. On l'a évoqué brièvement. En 82, l'Académie américaine des arts et des lettres va l'élire comme membre. Et puis le 5 octobre 83, Marguerite Yourcenar se rend cette fois à Amsterdam. Elle y recevra le prix Erasme. Et cela va continuer tout au long et jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, c'est aussi les années de nombreux voyages aux États-Unis, en Europe, en Afrique, Afrique du Nord, Kenya, en Asie, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde, en compagnie de Jerry Wilson. Rappelons que Grace Frick, la compagne de Marguerite Yourcenar, était morte en 1979. Et puis, c'est aussi, bien sûr, l'année de nombreux entretiens en radio, en télévision. Et par exemple, celui-ci avec Jean-Michel Minon pour la RTBF.
Mon père appartenait à une vieille famille française du nord de la France. La région située entre Cassel et Bayeul, donc tout près de la Belgique. Et bien entendu, dans le passé, ces différences n'existaient pas. Il y avait simplement les Flandres. Et la famille de mon père avait pas mal d'ascendants qui avaient vécu à Bruges, à Gand, même à Anvers. Ce qui fait que tout ce monde de la vieille Flandre m'était très familier. Et d'autre part, ma mère était une Belge wallonne de Namur. Je n'ai pas beaucoup connu ma mère, et alors là, l'influence est peut-être un peu moins marquée. Mais enfin, par elle, j'appartiens à une autre partie de la Belgique. Je dirais même, si ça peut intéresser le public belge, qu'elle était nièce ou petite-nièce, je n'ai pas les documents sous les yeux, du poète, enfin de l'essayiste poète Octave Pirmet, qui a eu son heure de célébrité, qui est encore un personnage intéressant à étudier.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle revendique sa belgitude.
Ben, je ne sais pas, parce qu'on va entendre sa biographe, Josiane Savigno, qui est l'auteur de la biographie de Marguerite Yourcenar, parue après la mort de Yourcenar. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait son opinion, parce que je pense que, comme le disait Marguerite Yourcenar elle-même dans les mémoires d'Adrien, enfin, elle l'écrivait, le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été les livres. Et c'est confirmé par Josiane Savigno.
Puisqu'on est en Belgique, il y a toujours ces histoires. Est-ce qu'elle est belge? Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est américaine? Alors pour moi, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Je crois que, comme vous avez souligné, le nomadisme de son père et le sien, on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain. Marguerite Yourcenar n'est pas quelqu'un qui avait le sens de la patrie ou de la citoyenneté. Elle avait le sens de la patrie culturelle. Et ça la relie aussi à la Belgique, parce que j'allais dire pas seulement la patrie culturelle au sens linguistique du terme, sa langue était le français, mais elle avait le sens de toute une culture, de la culture des Flandres. Et c'est sûr qu'elle aimait la peinture d'ici, les couleurs d'ici.
Les accents d'ici.
Mais en faire quelqu'un qu'on accrocherait à une belgitude ou à une francité par le passeport qu'elle promenait, ça me paraît vraiment hors de propos pour elle. Du reste, on voit bien que quand elle est devenue américaine, par commodité, parce que c'est tellement plus facile quand on vit dans un pays d'en avoir le passeport, elle a oublié d'aller signer au consulat le papier qui lui permettait de rester française, ce qui fait qu'on a dû la faire redevenir française. Pour l'Académie.
Effectivement, ben on peut comprendre ce point de vue de Marguerite Yourcenar. C'est vrai que sa vie a été tellement baladée d'un coin à un autre qu'une nationalité très précise est difficile à lui donner. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a vécu énormément d'années aux États-Unis et qu'elle va décéder en 1987 à Mount Desert Island. C'est donc là où
elle résidait.
Voilà.
Et puis rappelons que son successeur à son fauteuil, ça a été Jean-Denis Bredin, et puis qu'il y a une autre femme, notamment, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas j'ai en tête, Hélène Carrère-Dancausse est une autre femme depuis lors à être entrée à l'Académie française.
Et bien voilà, ainsi se termine cette émission consacrée à Marguerite Yourcenar. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en êtes sorti plus instruit que vous n'y êtes entré, c'est mon cas.
Merci pour les archives à Jean-Pierre Greuze.
Merci aussi à Laurent Nélissen qui était à la technique et à Christian Martin qui était notre assistant. On se quitte dans quelques instants. 14h.
Et ensuite, note en stock, bien sûr.
Des coups de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène comme on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. À mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de poing dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Ce que les autres n'ont pas voulu garder.
Retrouvez Flashback tous les jours de la semaine entre 13h30 et 14h.
La première.